Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles, le podcast que le monde entier nous envie, en particulier les Américains. Rendez-vous compte. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, on parle du harcèlement. Le harcèlement scolaire, c'est un fléau, ça concerne tout le monde, ou presque. Ça concerne les enfants quasiment de tous les âges, personne n'est à l'abri. Alors une fois que j'ai fait cette introduction bien anxiogène, ça place le sujet car plus on en parle, plus on s'aide les uns les autres. Et c'est hyper important de détecter les signes quand nos enfants sont victimes de harcèlement. C'est hyper important d'expliquer aussi à nos enfants pourquoi il faut faire attention aux autres et ce qui peut paraître pour eux un jeu peut très vite tomber dans le harcèlement. Donc, on va entendre Lior qui a 11 ans, et sa maman Sabrina, qui vont venir toutes les deux nous raconter le harcèlement dont a été victime Lior, et puis nous serons avec un psychiatre qui nous expliquera juste après dans quelle mesure le harcèlement peut impacter la vie des enfants. Je précise que Lior, au moment du harcèlement, au moment où ça a commencé, elle avait 8 ans, donc elle était toute petite. On écoute.
Là, on va parler de chiffres qui sont vraiment effrayants. Près d'un enfant sur 10, c'est énorme, est harcelé chaque année à l'école. Alors si on compte environ 12 millions d'enfants scolarisés, le calcul est vite fait, ça fait 1 million de petites victimes. La plupart du temps, les cas de harcèlement débutent à l'école primaire. Ça, c'est 12% en primaire, 10% au collège, 4% au lycée. Bonjour Lior.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ton témoignage, il est ultra important. Tu en as conscience, d'abord pour tous les enfants qui vivent la même chose que toi, et puis aussi parce que parfois, nous, parents, on n'a même jamais entendu parler de harcèlement scolaire. Et parce qu'on va le comprendre, vous êtes très, très fort pour nous cacher ce qui se passe à l'école. Alors, il y a 3 ans, quand tu étais en CE2, tu as été donc victime de harcèlement. Et Sabrina est à tes côtés, ta maman. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Alors c'est vrai que vous allez nous donner aussi votre prisme de maman, parce que je l'ai dit il y a un instant, ils sont très très forts pour minimiser ce qu'ils vivent à l'école, alors que c'est parfois dramatique. Est-ce que tu peux déjà me dire, Lior, comment tu étais avant cette période de harcèlement? Quel rapport tu avais avec l'école? Est-ce que tu aimais bien? Est-ce que tu étais contente d'y aller?
Avant que je me fasse harceler, j'avais des copines, j'avais de bonnes notes, j'étais heureuse à l'école.
Donc tu avais toujours envie d'y aller, il n'y avait aucun problème. Sabrina, comment est-ce que vous décririez votre fille quand elle allait à l'école avant ?
Ma fille, avant cette crise de cette période de harcèlement, c'était un feu d'artifice. Elle était pimpante, elle était tout le temps chippie, elle bougeait dans tous les sens, contrairement à son frère. Son frère, c'est la force tranquille, elle, c'est tout le contraire.
Donc une petite fille très gaie. Lior, tu avais 8 ans, donc tu étais en CE2 quand ça a commencé. C'est parti de quoi, en fait ?
Alors, j'avais une amie qui était en CE2, en CE1, pardon. Et cette amie, dans sa classe, il y avait 4 filles qui ne l'aimaient pas trop. Et du coup, elles sont venues me voir pour me demander de la mettre à l'écart, sauf que je n'ai pas accepté et ça ne leur a pas plu. Et donc, c'est là que ça a commencé.
Et ça a commencé comment ?
Par exemple, les dames de cantine nous donnaient des petites tâches, comme nettoyer les tables, elles me renversaient la carafe d'eau sur la table ou elles me jetaient le chiffon à la figure.
Comment tu te défendais alors à l'époque ? Et est-ce que tu te défendais déjà ?
Ce qu'il y a, c'est que je ne savais pas vraiment comment me défendre. Elle me faisait peur, donc je ne pouvais pas vraiment me défendre.
Elles étaient de plus en plus méchantes, plus ça avançait, plus ça allait loin ?
C'est ça, elles étaient beaucoup plus méchantes au fil du temps.
Plus les jours avançaient, plus c'était vraiment agressif, on va dire. Est-ce que tu as essayé d'en parler à quelqu'un à cette période-là ?
Au début, j'ai essayé d'en parler à ma mère. Mais sauf qu'elle a cru que c'était des petites chamailleries.
Bien sûr.
Sauf que quand ça a commencé à devenir plus grave, j'ai décidé d'arrêter de lui en parler. Et du coup, c'est comme ça que...
Et pourquoi est-ce que tu as arrêté d'essayer de lui en parler ? Parce que tu avais peur qu'elle s'en mêle ?
C'est ça, j'avais peur qu'elle s'en mêle et que ça empire. Donc j'ai complètement arrêté de lui en parler.
Sabrina, quand Lior vous en a parlé, vous avez... Et on vous comprend tellement... Vous n'avez pas eu conscience, en fait, de la mesure de ce qu'elle vous disait ?
Non, pas du tout. J'ai pas eu conscience. J'ai eu conscience de rien du tout. Et au début, Je me disais que c'était des chamailleries de cours d'école, comme chaque année. Il y en a tout le temps, surtout que moi aussi, je travaille en école maternelle.
Oui, vous êtes ATSEM. Donc,
je suis ATSEM en école maternelle et j'ai pas vu la souffrance de ma fille. C'est ça, ça a été terrible pour moi.
Eh oui, et en plus, vous les connaissiez, ces petites filles.
Je les ai connues, je les ai eues pendant 3 ans dans l'école où je travaillais. Et quand elle me disait que c'était le nom des petites filles qui l'embêtaient, j'avais vraiment du mal à le croire. Parce que si vous les voyez, les petites filles, elles sont blondes, aux yeux bleus, avec de belles fossettes, à faire de la danse classique. C'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal à... Enfin, c'est pas que je la croyais pas, mais je me suis dit que c'était juste des enfantillages d'école maternelle. Mmh. Enfin, de cours d'école,
oui,
quoi.
Oui, oui, bien sûr. Alors ensuite, Lior l'a très bien dit, elle a décidé qu'elle vous en reparlait plus. Comment est-ce que vous êtes rendu compte de ce qu'elle endurait tous les jours à l'école? À quel moment est-ce que vous avez compris?
Ça a pris quand même quelques mois, parce que la première fois qu'elle m'en a parlé, on devait être peut-être en novembre, c'était 2-3 mois après la rentrée scolaire. Et bon, après, j'ai plus rien remarqué. J'ai commencé à remarquer les choses vers le mois de février, mars, où je voyais qu'elle, qui a toujours eu très, très bon appétit, et ça depuis la maternité, elle mangeait moins, elle dormait pas. On va dire le vendredi soir, elle passait un très bon week-end. Le dimanche, quand je lui dis « Allez, c'est l'heure d'aller se coucher pour aller à l'école », elle trouvait des prétextes pour pas aller au lit, elle avait le sommeil perturbé. Et je me disais « C'est bizarre », j'ai essayé de lui dire comment ça se fait. Qu'est-ce que tu as ? J'ai remarqué qu'il y avait des petits soucis de comportement, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas la petite fille que je connaissais. Et elle me disait que tout allait bien, que...
Donc, c'est votre fils, en fait, hein, qui vous a alerté.
Exactement. Alors, mon fils m'avait déjà dit une fois qu'il avait vu sa sœur pleurer dans la cour d'école, parce qu'il était en CM2 dans la même école. Et donc, c'est là que je lui en ai reparlé. Je lui ai dit « Pourquoi tu pleures ?» Elle me dit « Non, c'est rien. J'avais mal au ventre. Ou j'étais tombée, je me suis fait mal. » Elle trouvait des excuses et prétextes. Voilà, jusqu'au jour où c'est un copain de mon fils qui a vu, qui a assisté à une scène dans les toilettes de la cour d'école. Et il a vu les 4 petites filles qui bloquaient Lior à la sortie des toilettes. Et ça a fini... il a vu la jeune fille la gifler. Et elle est tombée, elle s'est cognée la tête contre les toilettes. Et c'est là qu'il a été chercher son frère. Donc, 2 CM2, les petites ont eu peur, elles ont arrêté. Et c'est là que le soir, il m'a tout raconté.
Est-ce que tu étais soulagée, toi, Lior, que ton frère ait averti ta maman?
En même temps, oui, en même temps, non. Mmh. Parce que... J'étais soulagée d'un côté parce que je pensais que ça allait s'arrêter. Mais de l'autre côté, je l'étais plus. Enfin, je l'étais pas. Parce que j'avais peur que ça empire. Donc,
Et qu'elle t'en veuille, en fait, d'avoir prévenu les parents. Sabrina, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez alerté l'école à ce moment-là?
Alors, moi, tout de suite, le lendemain matin, j'ai été à l'école. J'ai parlé à la directrice de l'établissement, qui était aussi la maîtresse de Lior. Et au début, elle était un peu dans le déni. Mmh. Elle m'a dit « Non, mais essayez de régler ça entre vous, essayez d'en parler. » Donc moi, vu que je connaissais les mamans, évidemment, je les ai appelées. On a essayé de faire ça tranquillement, dans une terrasse de café, à prendre un goûter. Les filles ont carrément avoué ce qu'elles ont fait. J'ai dit « Mais est-ce que Lior t'a fait quelque chose de mal ?» Pour pas tout de suite les mettre, elles, en porte-à-faux et que Lior se sente...
Pas qu'elle se braque, quoi.
Voilà. Et donc, elle me dit « Non, elle m'a rien fait, elle m'a rien dit de mal. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. » Voilà, c'est les réponses. Et les mamans, par contre, elles ont été extraordinaires parce qu'elles n'étaient pas du tout dans le déni. Ce n'étaient pas des mamans qui disaient « Non, moi, ma fille, c'est impossible qu'elle fasse ça. » Tout de suite, elles ont agi, elles ont discuté, elles les ont punies de sport, de sortie après l'école. Mmh. Et ça s'était calmé pendant 2-3 jours. Et Lior revient et me dit que « Maman, elles ont recommencé, elles l'ont remenacé. Puisque tu as parlé à ta mère, tu vas voir, on va te faire la misère. »
Oui, c'est ce que tu redoutais, hein, Lior, qui s'est passé. Tu ne voulais plus aller à l'école. Vous remarquez que Lior, elle va de plus en plus mal. La directrice, elle n'a pas l'air de vouloir faire quoi que ce soit. Elle reste en fait beaucoup dans le déni. Donc, quelle solution est-ce que vous avez pu trouver à ce moment-là?
Quelle solution? J'ai reparlé encore une fois à la directrice. Je lui ai expliqué que j'ai fait ce qu'elle m'avait dit, que j'ai appelé les parents, on s'était vus à l'extérieur de l'école. Finalement, ça continuait. Et j'avais surtout remarqué, étant donné que je travaillais dans l'école maternelle qui était à 300 mètres de l'école primaire, souvent j'allais me mettre un petit peu en cachette pour voir si ma fille allait bien. Et je voyais qu'elle n'était pas dans la cour. Donc, elle trouvait tout le temps des prétextes pour ne pas descendre en récréation, à tailler les crayons, à distribuer des feuilles. En fait, c'était au lieu que ce soit les harceleuses qui étaient privées de récréation, puni, qui étaient punies, même à être dans la cour, mais assise dans un coin côté des maîtresses, c'était ma fille qui restait en classe, quoi. Ou quand elle sortait, c'était elle qui était à côté des maîtresses qui la surveillaient pour pas qu'elle se fasse embêter, en fait.
Et puis elle dormait de plus en plus mal.
Elle dormait quasiment plus.
Quasiment plus.
Ouais. Ouais.
Ma pauvre Lior. Alors, l'année suivante, vous avez déménagé dans une autre ville. Donc, tu as dû faire ta rentrée dans une autre école. Comment ça s'est passé? Tu devais être soulagée quand même d'être éloignée de tes harceleuses, non?
C'est ça. À ce moment-là, au moment de la rentrée, j'étais très soulagée, déjà. Et ensuite, j'ai réalisé que les autres filles, elles n'étaient pas du tout comme ça. Donc, ça m'a soulagée doublement.
Oui, de te dire, je suis bien entourée, là, cette fois, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, tu es au collège, tu te sens bien?
Oui, c'est ça.
Il n'y a plus de problème. Pourquoi est-ce que tu voulais témoigner aujourd'hui, Lior?
Je voulais témoigner pour pas que les autres enfants fassent la même erreur que moi. De ne pas en parler, c'est surtout ça que je regrette. Donc...
Tu penses que c'est une affaire d'adultes? Tu penses que c'est les adultes qui doivent gérer ça?
C'est ça. Et faut vraiment... Je voulais vraiment témoigner pour dire qu'il faut vraiment, vraiment en parler parce que c'est vraiment ce que je regrette beaucoup.
Tu gardes des petites séquelles, je dirais. Est-ce qu'il y a des petites choses, quand même, qui ont changé à cause de ça, dans ta vie, dans ta façon d'être?
C'est vrai que des fois, je repense un peu... des fois, je repense un peu à cette année-là et oui.
Sabrina, vous, quel conseil vous donneriez aux parents qui nous regardent et qui se disent, si c'était mon enfant, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi?
Déjà, je leur dirais d'être attentif.
Oui, c'est ça, c'est difficile de ne pas passer à côté.
Parce qu'on a beau être là aux petits soins pour nos enfants, on va dire que quand c'est le moral... on ne le perçoit pas forcément.
Bien sûr.
Il faut vraiment être attentif au moindre changement de comportement, un trouble alimentaire, si l'enfant s'isole. C'est que même si l'enfant n'a pas envie d'en parler, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Et si l'enfant ne refuse de parler et essaye de faire croire aux parents que tout va bien, essayez de creuser aux alentours, de demander aux amis, de demander, parce que peut-être s'il ne se confie pas aux parents, il se confie peut-être aux amis autour d'eux.
Docteur Philippe Haïm, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous êtes l'auteur de Harcèlement scolaire, le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir. Alors, avant de nous donner des clés, justement, pour aider les enfants à réagir face au harcèlement, je voudrais quand même essayer de comprendre, parce que ça revient dans tous les témoignages qu'on a, comment ça se fait que nous, parents, on voit bien que Sabrina est une maman ultra attentionnée, comment ça se fait qu'on passe à côté?
On passe à côté déjà parce que les enfants n'en parlent pas, tout simplement, et que quand on le voit, on l'a bien entendu dans le témoignage, c'est par des signes indirects, j'ai mal au ventre, je m'isole, je joue plus avec les autres, ça disparaît un peu les week-ends et les vacances scolaires, voilà, et les enfants n'en parlent pas, déjà comme toute victime de choses violentes, ils ont honte de ce qui leur arrive, c'est une réaction qui arrive à beaucoup de victimes, quel que soit le type d'agression, et puis aussi, ils ont peur que les parents s'en mêlent, et souvent, ils ont un peu raison, dans le sens où, effectivement, quand les adultes s'en mêlent, c'est souvent, et on le comprend, dans l'idée de demander une sanction, et souvent, cette sanction, elle est interprétée par les agresseurs comme un signe de faiblesse. Effectivement, je me suis attaqué à la victime qui ne sait rien faire sans les adultes. Et donc, ça recommence. Ouais. Voilà. Le seul problème, c'est que la question des enfants, souvent, c'est de se demander comment je peux faire pour m'en sortir, et non pas « sors-moi de là ». Voilà. Et souvent, on a du mal à le comprendre parce que c'est bien normal, on a envie de protéger nos enfants. Mais des fois, avec la meilleure volonté du monde, on donne un message un peu paradoxal.
Oui, c'est ça. Justement, on a reçu une question de Julien qui vous demande quelle attitude conseiller à son enfant face au harcèlement, répondre de manière brutale au risque que ça dégénère ou feindre l'indifférence?
En fait, l'idée, c'est qu'un agresseur verbal, j'entends, pour le harcèlement, vous agresse en espérant que ça va vous atteindre. Donc, si vous baissez la tête, vous dites « arrête de m'embêter », c'est que vous êtes atteint. Si vous dénoncez, c'est que vous êtes atteint. Si vous contre-attaquez, c'est que ça vous a atteint quand même. Et si vous feignez l'indifférence, souvent, c'est très difficile de feindre l'indifférence, et ça montre que vous êtes atteint quand même.
Oui.
Donc, dans tous ces cas-là, avec des réactions qui sont très spontanées, très naturelles, en fait, indirectement, on donne le message à l'agresseur, finalement, je suis atteint par ce que tu fais, et donc le harcèlement va continuer parce qu'il marche. Et donc, en fait, la voie que je propose, que j'ai essayé de développer une méthode à partir d'un jeu pour apprendre aux enfants à montrer activement qu'ils ne sont pas atteints en communiquant différemment. Et c'est la méthode qui marche le mieux, à mon avis, parce qu'elle ne montre pas qu'on est atteint. Voilà, tout le problème est de ne pas montrer
qu'on est
atteint.
Mais c'est quoi ? C'est en rigoler ? C'est
Alors,
en deux mots ?
En deux mots, l'idée, c'est que souvent, un enfant, quand il est face à un agresseur verbal, il a envie de lui dire « tu n'as pas le droit de me dire ça, tu n'as pas le droit de me dire ça ». Et quand je dis ça, quelle que soit la manière dont je le dis, je lui dis « ça me touche, ça m'atteint ». Et donc, quelque part, c'est d'utiliser, à un niveau d'enfant, finalement, la liberté d'expression. Ben, « tu as le droit de me dire ça ». En fait, voilà. Moi, j'essaye de dire, par exemple, moi, j'ai plusieurs enfants, j'ai une fille de 5 ans, j'essaie de lui dire que effectivement, personne ne te touche sans ta permission. C'est des messages très importants. Mais par contre, si quelqu'un veut dire du mal de toi, ça arrivera, et il a le droit. Moi, je te trouve super, mais un jour ou l'autre, quelqu'un ne sera pas d'accord avec moi. Et tu sais quoi ? Ben, il a le droit. Ce qui fait que le harcèlement, ça commence toujours par des petites insultes.
Oui, une petite brèche, on a l'impression.
Voilà, et donc ça va être « t'es moche », « t'es nul », ou « t'as vu tes vêtements ». Mais si,
c'est pas mal de les préparer à ça.
Exactement.
En fait, donc, vous
blinder. Exactement, mais blinder contre quoi ? C'est-à-dire, si vous me dites « t'es moche », et que je vous dis « hé, oh, comment tu me parles ?» ou « tu t'es pas vu, toi ?» Ben, vous allez dire « ah ben, je l'ai bien eu, je vais recommencer ». Et si vous me dites « t'es moche », et que je dis « ah bon, tu trouves ?» « Ah bah toi, par contre, j'adore ton pull. » Ça va être dur de me répondre. Et donc, blinder les enfants, pour moi, c'est leur apprendre
c'est
que l'agressivité verbale aura lieu. Il n'existe pas de monde sans agressivité. Dès qu'on est en relation avec des gens, il y a de l'agressivité. Et donc, les préparer à ça, c'est leur dire que ça va arriver. Si tu es atteint par les mots de ton agresseur, il va recommencer. Si tu arrives, non pas à ne pas être atteint, mais à lui montrer activement que tu n'es pas atteint, ça va s'arrêter. Et ça, c'est pas inné, mais ça s'apprend.
Question de Marguerite qui a 12 ans, regardez. Oui.
Bonjour la maison des maternelles, j'ai une question. Que faire quand on voit un enfant se faire harceler à l'école ? Merci !
Elle a déjà posé la question, c'est génial.
C'est chouette.
Sensibiliser
Alors,
aux autres.
Ça c'est une question très intéressante parce que ça montre aussi, c'est dans la même veine que les enfants ont du mal à en parler aux adultes. C'est-à-dire que la seule chose qu'on dit aux témoins, c'est parlez-en, dénoncez-le, dénoncez-le, dénoncez-le. Et en fait, même le président Macron avait fait un clip quelques années pour dire dénoncez sinon vous êtes complice. Mais il faut avoir oublié un peu la cour d'école pour dire ça. Ouais. Les gamins savent très bien que s'ils dénoncent, ils peuvent être éventuellement la prochaine victime et ils n'ont pas du tout envie de dénoncer. Donc effectivement, je crois qu'il faut distinguer, j'essaie de bien le distinguer dans mon livre ou sur ma chaîne YouTube, les dégâts dits objectifs, c'est-à-dire la violence physique, la violence sexuelle, où là, évidemment, il faut dénoncer, sanctionner, protéger, c'est une évidence totale parce que face à la violence physique ou sexuelle, on ne peut pas s'en dégager comme ça. Mais face à la violence verbale, pour moi, la seule voie, c'est d'essayer d'équiper la victime. Parce que
l'aider,
sinon,
d'aider
la personne, alors on peut éventuellement intervenir, mais effectivement, si on s'attaque à l'agresseur, si, etc., ça va se retourner contre nous. Ouais. Donc, c'est d'apprendre à la victime à s'entraîner. Donc, moi, il y a des enfants que j'ai aidés à se sortir du harcèlement et qui, des fois, vont apprendre à d'autres. Ils vont dire, tu sais, j'ai appris une méthode. Si tu veux qu'il arrête de t'embêter, je vais t'expliquer comment répondre. Et ça, c'est chouette.
Mais l'idéal, c'est pas quand même, je sais pas, un surveillant ou la directrice qui surveille et qui prend les délits.
Alors, c'est intéressant comme idée, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps où les enfants se font agresser, c'est quand ils sont seuls. Mmh. C'est dans les couloirs, c'est sur
c'est
le ça. Chemin, c'est dans les toilettes.
Si jamais vous êtes
exactement. Et si vous êtes un harceleur repéré et qu'à l'école, on vous surveille, on a le nez sur vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur les réseaux sociaux. Et en fait, on voit qu'à force d'avoir des méthodes uniquement punitives et de surveillance, ces dernières années, on a une très légère diminution du harcèlement, une immense augmentation du harcèlement sur les réseaux sociaux.
C'est ça. Ah
bah, ouais. Bah, parce que là, on n'est pas surveillé. Mmh. Donc en fait, augmenter la surveillance, ça va déplacer le harcèlement, mais ça ne va pas le diminuer.
Vous dit mon fils est petit pour son âge et ses camarades se moquent de lui. Ses copains disent qu'il s'agit de blagues, mais ça l'affecte. Comment faire la différence entre une blague et du harcèlement ?
Voilà, ça montre bien que c'est un peu les deux. Pour celui qui aimait la blague, c'est une blague. Une blague, finalement, il y a toujours quelqu'un qui est un peu visé ou un groupe de gens qui sont un peu visés. Mmh. Là, ça tombe sur lui. Et c'est le fait que ça l'affecte qui en fait que c'est du harcèlement. Ça fait que c'est une attaque qui est une petite attaque, c'est pas de la grande violence, qui est répétitive et qui est blessante pour la personne. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que les moqueries, ça peut affecter tout le monde et toute la vie. Et c'est pas seulement parce qu'on est petit qu'on sera moqué, parce que plus on va arriver au collège, etc., et puis on va voir, les petits vont être moqués, les grands vont être moqués, chez les filles, celles qui ont des petits seins vont être moquées, celles qui ont des gros seins vont être moquées, les gros, les maigres, les premiers de la classe, les cancres, tout le monde, un jour ou l'autre, peut être visé par une moquerie. La question, c'est, ça l'affecte. comment faire pour que ça ne l'affecte plus. Effectivement, face aux moqueries, alors ça s'apprend aussi, mais la meilleure arme, ça reste quand même l'autodérision. Si une personne sait faire une blague...
Si on a ça, ça c'est fantastique.
Exactement, et ça s'apprend. Ça, c'est pas inné, parce que la première chose qu'il y a quand on nous fait une blague sur nous, c'est qu'on est affecté et qu'on a envie de contre-attaquer ou de baisser la tête. Ça s'apprend, et justement, c'est un des objectifs des choses que j'essaie d'apprendre dans mon livre ou ma chaîne YouTube ou mes formations, c'est comment on apprend cette compétence, ça s'apprend, et quand on arrive à faire des blagues sur soi, eh ben, on est invulnérable, en fait, finalement.
Bien sûr, ça c'est sûr. De toute façon, l'humour sauve de tous les conflits, mais après, encore faut-il oublier l'émotion qui est parfois un petit peu...
C'est ça, mais alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent l'inverse. Souvent, les gens pensent qu'il faut d'abord acquérir un état d'esprit, par exemple, avoir de la confiance en soi, avant d'arriver à faire ça. Et justement, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est exactement le contraire. C'est parce que vous allez apprendre à faire ça, parce que vous allez communiquer différemment, que ça va finir par intégrer, en fait. Au début, l'enfant va l'apprendre sous la forme d'un jeu, et puis, en fait, à force de jouer à ce jeu, ça va infuser, si vous voulez, à l'intérieur. Si on attend qu'il ait d'abord confiance en lui, ça ne va pas marcher comme
et
ça.
Et là, dans votre méthode, on est bien d'accord que c'est quelque chose qu'on infuse quand on est très petit.
Pas forcément. Ça peut s'apprendre à n'importe quel âge. Et en vérité, honnêtement, tous les gens qui se sont formés à ça, adultes, m'ont tous dit « je vais l'utiliser pour moi ».
Oui, oui, c'est sûr.
Parce que c'est toute la vie, en fait. Donc,
après... Je veux dire, quand on entend quand même les témoignages qui se terminent mal, etc., vous savez que les parents, quand on leur tient des discours comme ça, ils sont comme ça.
Alors, j'entends bien le truc, c'est que moi, je suis parent aussi, et je comprends que quand on touche à nos enfants, c'est juste horrible, quoi. On a envie nous-mêmes de se venger ou de prendre la douleur à leur place. Alors attention, quand je dis que c'est des attaques petites, je ne dis pas que la douleur est petite. La douleur peut être immense pour l'enfant. La seule chose que je dis, c'est qu'on a une marge de manœuvre. La victime est innocente, ça c'est sûr. Mais concernant les attaques verbales, elle n'est pas impuissante. Mmh. Moi, ce que je voudrais apprendre, c'est aux enfants à ne pas être impuissants, à être plus forts et à savoir régler les problèmes par eux-mêmes. Vous dites que les parents sont comme ça, mais si un parent a le choix entre... apprenons à nos enfants que c'est d'autres qui vont régler leurs problèmes à leur place, ou bien apprenons à nos enfants qu'ils ont des compétences pour régler leurs problèmes de relation aux autres, quelle option
vous choisissez ? Mais on est en train de parler de prévention. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, une fois que le harcèlement a commencé...
Alors, moi, je vous assure que j'ai vu des cas de harcèlement extrêmement graves s'arrêter vraiment. Ce n'est pas une méthode préventive uniquement, c'est aussi une méthode curative, parce que l'idée, c'est que la personne arrête le harcèlement. Tout le monde est d'accord, même les experts qui ne seraient pas d'accord avec moi, on est tous d'accord sur le fait que le harcèlement, c'est quelque chose qui se répète. Mmh. C'est quelque chose de répétitif. Mmh. Et moi, ce que je prétends, c'est que le harcèlement se répète parce qu'il fonctionne, parce qu'on n'arrive pas à jouer avec les règles du jeu et qu'on ne peut pas gagner un jeu sans connaître les règles. Mmh. Si on apprend les règles du jeu à un enfant, il va gagner la partie. Même si la partie est déjà engagée et mal engagée pour lui, si on lui apprend les bonnes règles du jeu, ça marche vraiment bien.
Et donc, selon vous, ils peuvent tous y arriver ?
Alors,
Pour moi, il y a quand même des enfants qui sont hypersensibles et ça, c'est inatteignable.
Alors, il peut arriver qu'il y ait des enfants qui aient des problèmes de régulation de leurs émotions. Mais justement, ça va leur apprendre à les réguler. Maintenant, est-ce que les enfants peuvent tous y arriver ? Moi, je pense que la plupart des enfants peuvent y arriver. Encore une fois, sauf des phénomènes pathologiques qui feraient qu'ils ont un problème... de régulation des émotions, qu'ils aient un psychotraumatisme, un trouble neurodéveloppemental qui les empêche de bien réguler leurs émotions, etc. Mmh. Mais ils peuvent y arriver. Ce qu'il faut, c'est sortir de l'idée qu'on va d'abord maîtriser nos émotions et ensuite on saura faire ça. C'est exactement le contraire. D'accord. On va apprendre à le faire et ça nous aidera à réguler nos émotions.
C'est comme la confiance en soi.
C'est comme la confiance en soi.
Il faut repérer.
Après, en tant que parent, moi, j'aimerais qu'on vienne me dire si mon enfant est harcelé. Quand vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas forcément...
Alors, ce qui est très important, c'est... Attention, alors, je dis que les enfants n'en parlent pas parce qu'ils ont peur que les parents s'en mêlent, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Mmh. Au contraire, un enfant qui vous en parle...
Non, mais je serais très content que dans l'entourage de mes enfants, copains, viennent me dire, fais gaffe, ton enfant est...
Oui, je trouve ça bien qu'on en soit averti. Je trouve ça encore mieux si c'est notre enfant qui nous le dit, parce que ça veut dire qu'il y a un lien de confiance.
Mais vous disiez, il y a de la honte.
Et il ne faudrait pas que le lien de confiance soit abîmé entre nous et nos enfants. Mais je trouve ça plus intéressant si on est au courant qu'on ait quelque chose à répondre à l'enfant qui soit en accord avec son monde et avec la manière dont il souhaite gérer ses conflits. Voilà. C'est le plus embêtant pour les enfants, ce n'est pas le fait d'en parler, c'est qu'on en parle à quelqu'un qui n'est pas une réponse qui nous convient. On en parle à quelqu'un qui a une réponse qui pourrait potentiellement, avec la meilleure intention du monde, aggraver le problème.
Et là, par exemple, si on prend le cas de Lior, à partir du moment où elle en parle à sa mère, là, votre méthode, c'est formidable, parce que si sa mère avait pu lui dire « écoute, tu sais quoi, tu fais de l'autodérision, je vais même te faire apprendre des phrases par cœur quand elle te dit des trucs, etc. », tu réponds ça, formidable. À partir du moment où elle commence à être frappée dans les toilettes, donc vous parlez tout à l'heure de violence physique, là, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, le truc, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est qu'il y a toujours une escalade. La réaction de la mère de Lior et la réaction de Lior, c'est des réactions naturel, logique, on a envie de dénoncer, de punir, etc. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand il y a des violences physiques, tous les cas que je connais en tout cas, la violence physique a toujours été précédée de violences verbales. Donc déjà, il faut se dire que si on avait accès à la connaissance que l'enfant est harcelé, si on avait la possibilité de lui apprendre à se renforcer là-dessus, on pourrait éviter énormément de cas de violences physiques. Et dans les cas de violences physiques, je ferai aussi une petite distinction. Il y a certaines violences physiques qui sont de la pure provocation, qui ne sont pas là pour faire mal à l'enfant physiquement, c'est des petites bousculades, des petites poussées, etc., qui sont des équivalents d'insultes.
Elle a eu une claque et elle est tombée.
C'est ça. Alors vous demandez à l'enfant, justement, est-ce que ça t'a fait mal physiquement? Et des fois, les enfants vous disent, il m'a bousculé, ça ne m'a pas fait mal physiquement, mais je me suis senti un peu humilié. Quand on en est là, il y a encore une marge de manœuvre. À partir du moment où il n'y a plus de marge de manœuvre, on est dans la violence physique grave, bien évidemment, ça s'appliquera toujours de faire comme d'habitude, de savoir dénoncer, protéger, etc., et de faire comprendre aux harceleurs qui sont allés un petit peu trop loin.
Pourquoi est-ce qu'on ne raisonne pas comme les adultes? C'est-à-dire que si moi, quand je venais travailler, quelqu'un ici me prenait aux toilettes et me tapait, je porterais plainte. Pourquoi est-ce qu'on ne raisonne pas plus facilement en plainte pour les enfants?
Alors,
si son enfant se fait taper dessus aux toilettes, pourquoi est-ce que c'est...
Encore une fois, ça dépend du degré de violence.
D'accord,
si c'est une violence provocatrice, la seule chose que je dis, c'est que de toute façon, cet enfant, vous allez y être de nouveau confronté. Si vous êtes tapé ici par quelqu'un qui s'est introduit dans le studio ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas quelqu'un à qui vous êtes confronté tous les jours.
C'est pas social.
Du tout du harcèlement. Ouais. Ce que vous me décrivez, c'est une agression.
Donc, par exemple, un pédiatre de cette émission que je vois régulièrement, s'il me harcelait, non, j'irais porter plainte. En fait, je rigole pas parce que.
Dans les toilettes.
Je pense que ça peut résoudre.
Je pense qu'il faut vraiment distinguer, par exemple, sur l'exemple que vous donniez, l'agression et le harcèlement. L'agression, c'est un truc qui arrive à tout le monde. Je peux me disputer avec quelqu'un, il peut y avoir une agression. Et dans ce cas-là, ça doit se résoudre comme une agression. Le harcèlement, c'est un phénomène répétitif. Et un phénomène répétitif avec des petites attaques. Pour les adultes, j'aurais envie de vous dire, c'est un peu la même chose. Il y a des dégâts objectifs et subjectifs. Si j'enlève même la violence physique, si vous êtes harcelé au travail par quelqu'un qui, vraiment, il y a une menace au-dessus de votre tête qu'à cause de lui, vous pourriez perdre votre poste, perdre votre salaire, etc., c'est l'équivalent des coups pour les enfants, c'est l'équivalent de la violence sexuelle. Il faut évidemment se défendre. Là, ce n'est pas d'un psy que vous avez besoin, c'est d'un avocat, etc. Par contre, si tous les jours, on se moque un peu de vous, on vous fait une petite remarque, on se moque de votre apparence, on déforme votre nom de famille... Là, c'est du harcèlement. Si vous portez plainte, est-ce que l'agresseur va mieux vous apprécier et arrêter de vous embêter? Non. Est-ce qu'il va mieux apprécier l'autorité et vouloir la respecter après? Non. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ne fonctionne pas. Exactement. Si vous savez, par contre, faire face et faire en sorte... Attention, je ne dis pas de le contrer, c'est de le désamorcer, ça va s'arrêter. Et concernant les enfants, on est quand même dans un truc éducatif. Ce qu'on a envie, c'est qu'ils apprennent à respecter l'autorité. Leur donner une punition qui leur paraît disproportionnée. Ils vont dire, moi j'ai dit des mots et on m'a exclu du collège. Ça leur paraît plus gros que ce qu'ils ont fait. Ils ne vont pas plus respecter l'autorité et ils ne vont pas plus aimer la victime. Ils ne vont pas plus l'apprécier et ils n'ont pas du tout envie d'arrêter de l'embêter. D'accord ? Et c'est comme ça qu'il y a des fois des plaintes entre adultes qui montent crescendo aussi. Et ça peut donner des cas dramatiques.
Et nous, dans nos consultations, comme on voit les enfants très régulièrement, il y a cette notion de honte.
Oui.
Et le gros problème, il est là, c'est que l'enfant a honte. Il a peur de décevoir ses parents, il n'ose pas en parler en rentrant à la maison. Et on doit arriver à déminer en donnant le micro à l'enfant. Et parfois, quand on examine l'enfant pour une angine ou autre chose, on en profite pour lancer des petites phrases.
Exactement.
Mais il ne faut pas non plus...
Et ça sort, là, avec vous ?
Alors, parfois, mais pas toujours. Et c'est ça qui est très compliqué.
Moi, je pense qu'il faut adapter notre discours à notre enfant parce qu'il y a plusieurs situations où il est agressé. Il y a des situations, c'est arrivé, on l'a vu, quand il y avait des phénomènes de société. Je me rappelle à l'époque du mariage pour tous ou en ce moment, les présidentielles. Des fois, c'est un débat qui dérape. Donc là, je vais plutôt dire à mon enfant... Bon, il semble que tu as du mal à défendre tes arguments. Est-ce que tu veux qu'on discute des idées que tu as et comment tu peux trouver des bons arguments? Ça, c'est un débat. Des fois, ça va être de la violence sexuelle ou de la violence physique grave. Je veux dire, oula, là, on t'a fait quelque chose qui est interdit. Et donc, mon devoir d'adulte, c'est d'intervenir parce que, voilà, et même si tu ne le souhaites pas, parce que ça, c'est interdit. Ou alors, et c'est là le cas de la violence verbale et du harcèlement, ça va être, oula, ce qu'il t'a dit, ça semble t'atteindre, ça semble t'affecter beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on réfléchisse ensemble comment on pourrait faire pour qu'il arrête? C'est ça l'idée. Mais encore une fois, c'est pas inné, notre réflexe habituel, c'est pas ça du tout. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre.
Merci professeur Philippe Hain, le psychiatre, d'être venu dans la maison des maternelles avec Agathe Le Caron. Merci à Lior, bien sûr. Lior et sa maman, Sabrina. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. J'espère que cet épisode vous a plu. Le temps de vous rappeler aussi que vous savez que on met régulièrement des épisodes du podcast des maternelles en ligne issus de l'émission du matin, de la séquence dite les yeux dans les yeux. Mais il y a aussi des épisodes inédit que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas, il y a par exemple un épisode entier sur qu'est-ce qu'être père en 2022. Vous recherchez un petit peu dans les épisodes précédents. Une heure de discussion sur la paternité en 2022. Intéressant pour les hommes, bien sûr, qui nous écoutent, qui vont devenir pères ou qui sont des jeunes pères, mais aussi pour les femmes. J'incite vraiment les femmes à écouter cet épisode pour entendre les questionnements des pères d'aujourd'hui. Il y a également un épisode natif, comme on dit, une heure de discussion sur le thème « Les parents d'aujourd'hui se mettent-ils trop la pression ?» Ça, je crois que ça aide du monde. Un épisode que je recommande aussi sur comment donner le goût de la lecture à vos enfants. Si vos enfants sont petits, ou d'ailleurs s'ils ne sont pas si petits, n'hésitez pas à écouter. Ça vous expliquera comment s'y prendre pour leur donner le goût de la lecture, si même si vous-même n'êtes pas un grand lecteur ou une grande lectrice, comment s'y prendre et surtout ce que ça apporte à l'imaginaire, à la construction intellectuelle des enfants, des épisodes qui sont riches en enseignements. Voilà, j'arrête avec mon monologue et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, d'après-midi, de nuit, de tout ce que vous voulez. Ciao tout le monde.